France Culture.
Et le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Le meilleur accord possible dans des circonstances très difficiles. Voilà comment la Commission européenne défend l'accord conclu avec les États-Unis. François Bayrou, au contraire, dénonce une soumission à Washington. Donald Trump hausse le ton face à Vladimir Poutine. Le président américain donne une dizaine de jours à son homologue russe pour arrêter la guerre en Ukraine. Une quarantaine de catholiques massacrés en République démocratique du Congo. Des rebelles islamistes venus d'Ouganda ont attaqué une église dans le nord-est de la RDC. En France, Rachida Dati, candidate à la législative partielle à Paris, quoi qu'il arrive. La ministre de la Culture qui pourrait bien retrouver sur sa route son ancien Premier ministre Michel Barnier. L'Union européenne a-t-elle capitulé face à Donald Trump en acceptant une taxe de 15% sur ses produits exportés aux États-Unis ? François Bayrou évoque, je cite le Premier ministre, un jour sombre pour une alliance de peuples libres qui se résout à la soumission, fin de citation. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz estime au contraire que l'accord permet d'éviter un conflit commercial avec les Américains. En tout cas, face à l'avalanche de réactions souvent critiques, Bruxelles est montée au créneau aujourd'hui pour défendre cet accord annoncé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bruxelles, où l'on retrouve Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre, c'est le commissaire européen au commerce, le Slovaque Maroš Šefčovič, qui a été chargé du service après-vente, car c'est lui qui a négocié l'accord avec les États-Unis.
Oui, et selon le commissaire au commerce qui a négocié effectivement ces accords, il n'existait pas d'alternative, sinon c'était la guerre à outrance. Il rejette donc les condamnations de la France ou de la Hongrie. Maroš Šefčovič affirme qu'il était impossible de revenir à la situation d'avant le fameux jour de la libération de Donald Trump.
Il est évident que le monde d'avant le 2 avril n'existe plus et que nous devons simplement nous adapter et relever les défis qui résultent de cette nouvelle approche. Je pense que la coopération avec notre partenaire stratégique est une meilleure solution, même si je sais que pour certains, une autre solution potentielle peut sembler très attrayante aujourd'hui. Mais ils n'ont pas passé en revue tous les chiffres, toutes les conséquences, tout l'impact que cela aurait dans tous les secteurs. C'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi, en toute connaissance de cause, je suis sûr à 100% que cet accord est meilleur que la guerre commerciale avec les États-Unis.
Les seuls à avoir un commentaire vraiment positif sont le Premier ministre belge, Bart De Wever, qui se félicite de l'exemption du secteur aéronautique, ou bien, vous en avez parlé, le chancelier allemand, Friedrich Merz, satisfait, lui, de voir les droits sur l'automobile redescendre de 27,5% à 15%. Tous les autres ont l'air de penser uniquement que le pire a été évité.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Alors l'une des dispositions controversées de l'accord, c'est l'engagement européen d'acheter aux Américains 750 milliards de dollars de produits énergétiques. Il s'agit principalement de gaz de schiste dont l'exploitation pose des problèmes en matière d'environnement. La France y a d'ailleurs renoncé sur son sol en interdisant la fracturation hydraulique. Mais Paris explique qu'il vaut mieux importer du gaz de schiste américain plutôt que du gaz russe. Gaïa Fèvre est responsable des politiques internationales au sein du réseau Action Climat. Et pour elle, l'Europe, une nouvelle fois, ne fait pas le choix du climat avec cet accord.
Ce que ça veut dire pour l'Union européenne et pour la France, en fait, c'est qu'on échange notre dépendance du pétrole et du gaz russe à celui des États-Unis. On ne fait pas le choix de la souveraineté. On ne fait pas le choix d'envoyer tout cet argent-là plutôt vers des renouvelables. Et le gaz naturel liquéfié américain, c'est un gaz qui va être obtenu par fracturation. On appelle ça le gaz de schiste. Et en fait, on envoie dans de la roche des produits liquides sous haute pression avec des produits chimiques pour aller chercher ce gaz-là. Donc c'est extrêmement destructeur. Et la France a dit « je ne ferai pas de gaz de schiste parce que c'est trop destructeur en France, mais n'a pas de problème à l'importer ». Et là, on se retrouve dans une situation où on ne fait pas le choix du climat. C'est complètement désastreux, alors qu'on est 10 ans après l'accord de Paris et tous les signaux nous disent « il faut sortir des énergies fossiles ». Et là, au contraire, on s'enterre dedans. Là, on a l'impression d'avoir un retour en arrière, finalement. On ne doit pas accepter ce type de deal sous une pression économique aussi forte soit-elle, parce que c'est sacrifier le climat. Et le coût de l'inaction va être extrêmement grand. Il faut garder ça en tête.
Gaïa Fèvre du réseau Action Climat, elle répondait à Véronique Robérotte. C'est depuis son golf en Écosse que Donald Trump a annoncé hier soir cet accord sur les droits de douane avec l'UE, avec à ses côtés Ursula von der Leyen, der Leyen. Aujourd'hui, c'est le premier ministre britannique Keir Starmer qui a rejoint le président américain dans son domaine écossais. L'occasion pour le locataire de la Maison Blanche d'adresser une nouvelle mise en garde à Vladimir Poutine. Donald Trump donne une dizaine de jours à son homologue russe pour mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Emeline Vin nous appelle de Londres.
J'ai évité en moyenne une guerre par mois depuis janvier, se vante Donald Trump dans le prestigieux hôtel de Thornbury en Écosse. Mais il y a une guerre que le président américain ne parvient pas à arrêter, celle que Vladimir Poutine mène en Ukraine.
À plusieurs reprises, on a bien parlé. Disons qu'à trois occasions, il semblait qu'on approchait d'un cessez-le-feu, peut-être de la paix, et d'un coup, les missiles pleuvent sur Kiev. Et je me dis, à quoi ça rime ? Je lui ai parlé il y a trois heures. Cela s'est produit à trop de reprises. Je n'aime pas ça.
Tellement pas que Donald Trump revient sur son délai de 50 jours accordé au président russe pour mettre fin à la guerre.
J'impose un nouveau délai de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Cela ne sert à rien d'attendre. On sait comment ça va finir, alors pourquoi attendre ? Après, ce sera des sanctions et des droits de douane secondaires. Poutine doit parvenir à un accord. Trop de gens meurent.
À ses côtés, pas un mot du Premier ministre britannique Keir Starmer, allié historique de Volodymyr Zelensky.
Emeline Vin, correspondante au Royaume-Uni. Avec Keir Starmer, Donald Trump a aussi évoqué la catastrophe humanitaire à Gaza. Fait nouveau, le président américain dit voir des signes d'une vraie famine dans l'enclave palestinienne assiégée. En Israël, deux importantes ONG accusent aujourd'hui l'État hébreu de commettre un génocide à Gaza. B'Tselem et Physicians for Human Rights publient un rapport accablant sur les pratiques de l'armée israélienne depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Les précisions d'Alice Moreno.
Notre génocide, c'est ainsi que l'ONG israélienne B'Tselem a intitulé son rapport d'enquête sur l'offensive menée par Israël à Gaza. Shai Parnes est porte-parole de l'organisation.
Ceci n'est pas le droit à se défendre. Ceci n'est pas une guerre. C'est un génocide. Si vous êtes un Palestinien dans la bande de Gaza, vous êtes visé par Israël.
L'armée israélienne ne vise pas seulement les combattants du Hamas comme elle le prétend, assure Shai Parnes. Il s'appuie sur les déclarations des dirigeants israéliens eux-mêmes.
Nous avons vu dès les premiers jours de l'attaque israélienne sur Gaza ces déclarations des hauts fonctionnaires israéliens qui disaient que tous les Gazaouis étaient des ennemis de la nation.
Témoignages, photos, vidéos, B'Tselem et Physicians for Human Rights ont recueilli des milliers de documents en provenance de Gaza depuis le 7 octobre 2023 qui prouvent, selon les ONG, qu'Israël détruit intentionnellement l'intégralité de la société palestinienne.
Nous assistons à l'anéantissement de villes entières, la destruction de l'intégralité du système éducatif et du système médical dans la bande de Gaza. Ils ont aussi affamé 2 millions de personnes pendant des mois et des mois.
Les organisations rappellent que 70% des morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023 sont des femmes et des enfants.
Notez d'ailleurs que ce chiffre de 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants provient d'un rapport de l'ONU publié en novembre 2024. En République démocratique du Congo, des islamistes ont massacré hier plusieurs dizaines de catholiques, au moins 43 morts, dans l'attaque d'une église située dans le nord-est du pays. À l'origine du massacre, des rebelles ADF, un groupe armé affilié à l'État islamique venu de l'Ouganda voisin. William Inao Nguyen nous appelle de Kinshasa.
Face à cet événement d'une rare violence, le pape Léon XIV a partagé sa consternation au lendemain du massacre de Komanda dans la province de l'Ituri. Ce lundi, les habitants continuent à compter leurs morts. Le bilan provisoire est lourd. 43 morts, dont 33 catholiques rassemblés à l'église pour la messe. S'ajoutent à cela 14 enfants portés disparus. L'abbé Aimé Lokana Dego, le curé de la paroisse de Komanda, partage sa colère.
Nous sommes tristes, nous sommes en colère. Et surtout, nous constatons qu'il y a un lâchement du côté de ceux qui doivent nous protéger. Depuis que les choses ont commencé, je crois que ces assaillants ont opéré pendant plus de 3 heures, sans être inquiétés, entre autres, ni la police, ni la FRDC, donc l'armée congolaise, et même la MONUSCO, je crois, ont brillé par leur absence pour intervenir.
Selon Regan Viri, expert des conflits armés à l'Institut de recherche congolais Ebouteli, cette attaque est une conséquence directe de l'opération militaire conjointe entre l'Ouganda et la RDC pour anéantir le groupe djihadiste.
Les rythmes de massacre de populations correspondent souvent à des opérations militaires. Mais plus ils sont attaqués, plus les ADF vont vers l'ouest, vont vers des zones difficilement accessibles où il n'y a pas forcément de grandes opérations.
Lancée il y a 4 ans, l'opération militaire Shuja fait face à un bilan mitigé, selon les analystes qui notent une augmentation des attaques des ADF visant des civils congolais.
La Chine prend des mesures inédites pour enrayer son déclin démographique. Le gouvernement communiste va verser une allocation d'environ 420 euros par enfant de moins de 3 ans. La natalité s'écroule dans le pays depuis 3 ans au point que la population chinoise pourrait passer sous le seuil du milliard d'habitants d'ici la fin du siècle, Nathanaël Charbonnier.
Ce qui inquiète les autorités chinoises, ce n'est pas que le pays plafonne à 1,4 milliard d'habitants, c'est plutôt que les projections pour les années à venir imaginent d'une Chine avec moins de 800 millions de personnes à l'horizon 2100. Un déclin qui a déjà commencé. La population a diminué de près d'1,4 million l'année dernière, avec des indicateurs qui ne sont pas bons. La Chine a enregistré une baisse des naissances. S'ajoute à cela le taux de mariage qui est également à des niveaux très bas, dans un contexte où de nombreux jeunes couples renoncent à avoir des enfants en raison des coûts élevés de l'éducation et de l'impact sur leur carrière. L'aide promise pour les parents d'enfants de moins de 3 ans sera donc de 3600 yuan, soit environ 420 euros. Cela viendra s'ajouter à d'autres initiatives déjà mises en place par certaines villes qui offrent des primes à la naissance pouvant aller parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros. On est loin en tout cas de la politique de l'enfant unique qui a couru en Chine entre 1979 et 2015.
Le Cambodge et la Thaïlande ont conclu aujourd'hui un cessez-le-feu après 5 jours d'affrontements armés à leurs frontières, des combats qui ont fait au moins 36 morts au total. Donald Trump revendique cette trêve. Le président américain affirme avoir parlé aux dirigeants des deux pays. En France, dans l'actualité politique ce soir, il y a cette guerre interne qui menace les Républicains autour d'une législative partielle à Paris. La Commission nationale d'investiture du parti se réunit en ce moment pour désigner celui ou celle qui portera les couleurs de LR dans la deuxième circonscription de la capitale en septembre. L'ancien Premier ministre Michel Barnier est candidat depuis la mi-juillet. Candidature qui déplaît à Rachida Dati au point que la ministre de la Culture annonce ce soir dans Le Parisien sa propre candidature. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Ce scrutin législatif prend une tournure décisive pour Rachida Dati avant les municipales de l'an prochain à Paris.
Oui, je serai candidate quoi qu'il arrive dans cette circonscription, déclare ce soir Rachida Dati aux Parisiens. Comprenez, même si son parti ne l'investit pas ce soir, la ministre de la Culture menace d'une candidature dissidente. Car Paris, c'est le précaré de Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Son objectif reste de briguer la capitale en mars 2026. La candidature de l'ancien Premier ministre dans cette deuxième circonscription parisienne, elle n'y a donc pas du tout goûté. L'entourage de la ministre voit en Michel Barnier un plan B envisagé par les LR, une option si Rachida Dati était empêchée de se présenter par une décision de justice, même si l'ancien locataire de Matignon dément toute vue sur la mairie de Paris. Mais pas de quoi rassurer Rachida Dati, d'autant que pour le moment, le soutien des LR au municipal ne lui est pas acquis. Une frange lui est particulièrement opposée et soutient une autre candidature pour l'hôtel de ville, celle du sénateur LR Francis Spinner. Hier, le président du parti, Bruno Retailleau, a tenté une ultime médiation en réunissant Michel Barnier et sa nouvelle concurrente. Des tractations qui n'ont pas réussi à faire bouger les lignes. Paris ne peut pas souffrir de guerres d'égo qui me sont étrangères, justifie la ministre de la Culture, qui laisse donc désormais le choix aux Républicains de trancher. La réunion de la commission d'investiture a débuté il y a une heure et devrait se terminer autour de 20h.
Explication signée Jeanne Serrin. Un dernier mot dans l'actualité judiciaire cette fois. Le parquet national antiterroriste délivre un nouveau mandat d'arrêt contre l'ancien président syrien Bachar al-Assad. La justice française veut le juger pour les attaques chimiques commises en Syrie en 2013. La semaine dernière, la Cour de cassation avait annulé un premier mandat d'arrêt, estimant que Bachar al-Assad bénéficiait de l'immunité personnelle des chefs d'État, argumentaire contesté par le parquet national antiterroriste. Le temps demain restera nuageux et humide. humide sur les trois quarts du pays, notamment sur la moitié nord. Les régions méditerranéennes devraient bénéficier d'un ciel dégagé où le soleil dominera. Les températures restent agréables, de 9 à 21 degrés pour les minimales, entre 20 et 33 degrés pour les maximales du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alix Forgeot. À la technique, il y avait Ludovic Auger.